France Musique.
Bon week-end, cher Nicolas Lafitte, et à lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous, nouveau rendez-vous avec la musique à Radio France, ce matin encore dans Fabrication Maison. Le portrait nous permettra de rencontrer l'organiste Olivier Latrie, très impliqué dans la construction de l'orgue de Radio France et qui donnera ici prochainement deux concerts. Dans le reportage, Jérôme Sandlars fera découvrir aux amateurs de vinyle une véritable caverne d'Ali Baba, les entrepôts où sont stockées les pépites discographiques de la Maison Ronde. Puis à 8h20, Marie Fauché, dans sa chronique, évoquera le compositeur Édouard Lalo. À 8h30, nouvelles archives fabuleuses collectionnées et choisies par Jean-Yves Patt. À 8h45, un souvenir de l'un d'entre vous. Et à 8h50, nous terminerons avec Question de cœur et Sophie Janin. On y va.
France Musique.
Bonjour Olivier Latrie.
Bonjour.
Alors Olivier, je pense que les auditeurs vous connaissent, mais on va peut-être vous présenter. Vous êtes donc organiste, internationalement reconnu. Et puis surtout, en ce qui nous concerne ici à Radio France, vous avez participé à la mise en œuvre de notre très bel orgue. Et ça n'est pas fini, hein, je crois, Olivier.
Non, ce n'est pas fini. Enfin, on voit le bout maintenant, heureusement. L'orgue est presque totalement opérationnel et il est de mieux en mieux de jour en jour. Donc on est tous ravis.
Vous y passez d'ailleurs pas mal de temps.
Oui, oui. La nuit pour travailler.
Le jour pour répéter.
Bon, le jour, c'est pour les autres activités qu'il faut quand même conserver. Et puis aussi pour travailler avec les facteurs d'orgue, pour leur donner un certain nombre de conseils sur l'équilibre entre les jeux, etc. Enfin,
c'est un très beau travail, ce travail entre le facteur et l'interprète, en fait.
Mais c'est extrêmement important, en fait, puisque un orgue, c'est un ouvrage d'art collectif. Bon, déjà au départ par le facteur d'orgue, mais c'est aussi un instrument de musique. Donc c'est vraiment important qu'un musicien ou des musiciens participent justement à la touche finale, puisque c'est ça qui va donner aussi l'âme de l'instrument. Et il faut savoir qu'un orgue, de toute façon, c'est un instrument de musique où le facteur donne déjà l'aspect musical. En fait, ça veut dire qu'il participe à l'interprétation musicale.
Tout
si l'orgue n'est pas bien au départ, le musicien ne pourra rien faire après. Donc il vaut mieux que ce soit bien au départ.
Alors des orgues, il y en a partout dans le monde. Je vous propose de commencer par en écouter un.
Thank you.
Olivier Latry, c'est vous qu'on entendait à l'orgue. Là, c'était l'orgue d'une salle à Philadelphie qui s'appelle...
Le Verizon Hall.
D'accord. Voilà. Et donc, c'est Christophe Eschenbach qui dirigeait l'orchestre de Philadelphie dans cet extrait du concerto pour orgue de Poulenc. Une très belle œuvre, d'ailleurs, que vous allez nous faire entendre ici à Radio France.
Mais oui,
bientôt.
Dans une semaine, à peu près.
Exactement, le 10 mars. Des orgues, finalement, il y en a partout dans le monde. Je ne vais pas dire sauf en France, puisqu'on vient d'en avoir deux. Mais quand même, il y a une résistance étrange en France
Je pense que c'est dû au fait que tout le monde pense... Par rapport au patrimoine qu'on a en France, il y a quand même énormément d'orgues.
Je crois plus de 12 000, je crois, d'orgues d'églises, oui.
Comme les orgues sont dans les églises, on dit qu'on n'a pas un orgue dans les salles, alors que le répertoire est différent, la destination est différente, et je crois qu'on a besoin maintenant, d'autant plus que la France est quand même un pays qui se désacralise de plus en plus, et très rapidement. Les gens ne vont plus à l'église, si on veut entendre de l'orgue, il n'y a plus tellement de solutions que d'aller dans les salles de concert. Autrement dit, il faut des orgues dans les salles de concert.
D'accord, donc là en plus, il y en a deux. Olivier Latry, vous avez fait partie des éminences grises qui ont présidé aux destinées non seulement de l'orgue de Radio France, mais celui de la Philharmonie de Paris.
Oui, je veux dire, je n'étais pas tout seul ce combat, puisqu'il y avait aussi mes collègues et amis Michel Bouvard et François Espinasse, auxquels se sont rejoints très rapidement Bernard Faucroul, Thierry Esquèche, Philippe Lefebvre, Jean-Pierre Leguet. Donc je pense que c'était vraiment un travail d'équipe, et c'était fantastique d'ailleurs.
Est-ce que c'est un combat d'organiste ou vous pensez que c'est un combat qui va au-delà de vos passions pour l'instrument?
Je pense que c'est important. Quand on voit le répertoire qui existe pour orgue et orchestre, il y a quand même 400 concertos. On joue toujours le Poulenc ou Jungen,
mais
il y en a 398 derrière, quoi. Faut quand même pas l'oublier.
Donc déjà, c'est une possibilité d'entendre ce répertoire.
Voilà, c'est ça. C'est quand même fondamental, il me semble. Ça, plus le travail aussi avec les chœurs. Enfin, il y a énormément de possibilités de faire entendre un orgue. Et dans un endroit comme la radio, où il y a deux orchestres, un chœur, une maîtrise, ça semble important d'avoir un instrument comme celui-là. Et je pense qu'on s'en servira beaucoup.
Oui, et puis vous, Olivier Latry, vous avez l'habitude de programmes un peu originaux. J'ai entendu parler de Stravinsky à quatre mains. Il y a aussi tout un travail de transcription autour de l'orgue.
Mais en fait, là, à l'inauguration de la Philharmonie, nous étions quatre à jouer aussi, avec Bernard Faucroul, Philippe Lefebvre et Owen Marshall. Et comme on était quatre, on a chacun choisi des pôles d'attraction un peu différents. Et j'ai choisi justement les transcriptions, parce que c'est vraiment ce qui marchait le mieux dans une salle de concert. C'est pas ce que je ferais, par exemple, à Notre-Dame ou ailleurs. Surtout
Notre-Dame, vous êtes d'ailleurs organiste.
Voilà, c'est ça.
Officiel.
Enfin, bon, jouer la danse du feu de Manuel de Falla ou bien la danse du sable de Khachaturian, c'est quand même pas forcément le lieu pour. Donc là, on est vraiment dans le cadre pour ça.
Alors, on revient un petit peu sur votre histoire et vos goûts avec votre deuxième choix musical.
Thank you.
C'est quand même génial, oh, c'est Olivier Latré. Oui, on a vu que vous adoriez. Les auditeurs ne le savent pas, mais on était absolument comme dans une espèce de galopade effrénée.
Mais oui, ça réveille le matin quand même, non ?
Ouais, sans son François, c'est un très beau souvenir, donc.
Oui, que j'ai malheureusement jamais entendu, j'étais trop jeune en live, mais enfin bon, je connais tous ces enregistrements, et je veux dire que c'est sur le plan musical, et la spontanéité, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais retrouver quand je joue, quoi. C'est fabuleux.
Là, il était avec l'orchestre de la Société des Conservatoires et André Cluytens, dont on a l'impression parfois qu'ils ont du mal à suivre le soliste.
Oui, ben c'est ça en fait. En fait, je me souviens aussi de certains professeurs qui me disaient « De toute façon, quand on joue avec orchestre, il faut toujours anticiper, il ne faut pas donner l'impression qu'on est à la traîne, etc. » Ben voilà, ben là, oui, c'est la
le bon exemple. Alors évidemment, il y a tout ce répertoire classique que vous admirez, puis il y a tout ce répertoire contemporain que vous défendez. Alors on peut peut-être faire commencer la contemporanéité à Olivier Messiaen, si vous voulez bien. Alors, Olivier Latry, on a peine à le croire, mais vous me disiez, hors micro, qu'à 13 ans, vous écoutiez ça en boucle.
Ben oui.
Les petites liturgies d'Olivier Messiaen.
C'était ça, alterné avec la troisième de Saint-Saëns par Baron Boyme, et puis les Ravel par Seiji Ozawa, et puis la messe de la Pentecôte de Messiaen aussi. J'écoutais ça en faisant mes devoirs d'école.
Et vous aviez des bonnes notes ?
Oui, en plus.
Alors là, l'interprétation est maison. C'est la maîtrise et l'orchestre de la RTF de l'époque, dirigé par Marcel Courault, et puis au piano Yvonne Loriot, aux ondes Marteneau, Jeanne Loriot. Bel enregistrement.
Oui, absolument.
Comment est-ce qu'on en arrive à l'orgue ? Quand on est un jeune musicien ?
Un petit peu par hasard, je crois.
C'est vrai ?
Tout simplement parce que j'avais quelqu'un qui m'a demandé de jouer une messe de mariage, et voilà, sachant que je faisais du piano. Et puis je me suis jeté à l'eau, ou plutôt sur les claviers. C'était vraiment ça, je suis tombé sur les claviers pendant la messe d'ailleurs.
Mais elle est belle votre éducation de l'oreille. D'ailleurs, elle vous a conduite, Olivier Latry, à défendre finalement assez régulièrement ce répertoire contemporain. Parce qu'on parlait du répertoire pour orgue tout à l'heure, orgue de salle. C'est vrai qu'il y a à peu près 500 œuvres. Mais il y a aussi surtout une création contemporaine qui est extrêmement fructueuse et active.
Plus, de plus en plus. Oui, absolument.
Vous qui rencontrez beaucoup de compositeurs, qu'est-ce qui les séduit dans cet instrument, son gigantisme, sa polyphonie?
Non, c'est plutôt l'aspect des timbres, je crois. Parce qu'effectivement, on peut faire tellement de choses. Les derniers compositeurs que j'ai rencontrés, qui n'étaient pas franchement organistes ou qu'on en jouait quand ils étaient jeunes.
Parce qu'il y en a beaucoup quand même des compositeurs organistes.
Oui, justement. Oui. Mais je ne dirais pas qu'il faut s'en méfier. Mais ils ont déjà leur éducation est faite. Tandis que quand on tombe sur quelqu'un comme par exemple Kayasa Riao, qui a joué de l'orgue dans sa jeunesse, mais qui n'en a plus joué depuis qu'elle a 15 ans, il y a un terreau fertile, j'allais dire. Et donc, on peut vraiment discuter ensemble. Quand j'ai créé une œuvre d'elle pour l'inauguration, encore un orgue de salle à Montréal, il y a 2 ans. On s'est beaucoup vu. Elle est venue à Notre-Dame. Pendant les offices, elle a écouté les improvisations, vu comment je me servais l'instrument, posé des questions, etc. Et ça, ce dialogue avant composition est extrêmement important, autant que celui après, quand je reçois la partition et que là, on discute des registrations, la manière d'interpréter l'œuvre.
Donc, vous diriez qu'il y a une création foisonnante autour de ces instruments, ces orgues de salle.
Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment l'occasion rêvée et c'est pas fini parce qu'il y a d'autres orgues de salle qui vont voir le jour en Europe. Je pense notamment au Palais des Beaux-Arts, là aussi sur l'impulsion de Bernard Faucroule.
En Belgique?
À Bruxelles, oui. Et cet orgue va justement permettre d'associer non seulement le son tuyau, mais aussi un son électronique, sachant qu'il y aura ce qu'on appelle une lutherie électronique, c'est-à-dire que le son de l'orgue pourra être transformé en temps réel et on pourra jouer justement avec ses sonorités spéciales.
Ah oui, c'est presque une espèce de petit ordinateur, non pas miniature, mais au contraire gigantesque.
Voilà, oui, gigantesque. Et là, on ne sait pas encore ce qui va s'ouvrir comme porte, mais on est sûr
qu'il va y avoir... Les DJ de l'orgue.
Ça va être un peu ça, oui.
En attendant, on écoute Maurice Ravel.
Thank you.
Une magnifique interprétation, Olivier Latry. Hein.
Oui, un raffinement extrême. Je veux dire qu'en plus, là, la prise de son
c'est
est
Ozawa.
Bien. C'est
Ozawa. L'orchestre
de Boston. Et la salle de Boston. Et je veux dire que c'est aussi un des disques que j'écoutais quand j'avais 13-14 ans.
Et, en et puis boucle, après, vous avez joué dans la salle.
J'ai joué dans la salle et j'ai retrouvé l'acoustique que j'avais entendue là, dans ce disque, dans ces disques de Ravel. Et ça m'a marqué, évidemment. J'étais extrêmement touché.
Il y a comme ça des très belles salles dans le monde, Olivier Latry,
heureusement,
qui
oui.
voyageait beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Oui, oui, heureusement.
Ouais. Et des publics pour ces répertoires d'orgue extrêmement nombreux, passionnés. Il y a beaucoup d'élèves en classe d'orgue dans les conservatoires.
Oui, encore. Ça dépend des pays. Curieusement, il y en a un peu moins aux États-Unis maintenant, alors qu'il y a là-bas encore un foyer religieux extrêmement fort. Mais finalement, il y a peu de gens parce qu'il y a pas, on gagne pas, on peut pas faire make money
avec l'orgue là-bas. Trop d'argent.
Voilà. Mais
par contre, ailleurs, oui.
Oui, oui, dans les pays asiatiques, maintenant, visiblement, la Chine s'y met aussi, le Japon, la Corée, etc. Et la Russie, beaucoup d'organistes.
Ah oui. Alors, ces instruments incroyables, donc l'orgue, c'est quand même une espèce de... Il y a la fascination pour le son, il y a la fascination pour le répertoire, et puis il y a la fascination pour l'objet quand même, non ?
Oui, mais je pense qu'il faut quand même transgresser un peu ça, parce que c'est bien l'objet, mais c'est quand même qu'un outil pour arriver à autre chose.
Et je crois c'est la même passion pour les violons, les violons qu'on veut, les plus anciens possibles, ou les violoncelles. Enfin, il y a quand même autour de l'instrument un mariage nécessaire.
C'est vrai, mais je vous dis, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce que quand on entend des fois des gens qui vont au concert et qui se disent « Ah oui, oui, la flûte de 4, la deuxième octave au positif est magnifique », bon, bah, écoutez, franchement, il y a autre chose à écouter dans un concert, il me semble.
La musique, ne serait-ce que ça.
Par exemple, oui.
On va terminer avec un disque assez original. C'est un disque que vous avez enregistré avec un piano pédalier.
Oui. Alors
c'est quoi cette aventure ?
C'est une super aventure, je dois dire, parce que, en fait, ce piano pédalier a appartenu à Charles-Valentin Alcan.
Alcan, grand compositeur, un peu ignoré.
Oui, dommage. Mais... Et qui a été. En fait, ce piano était chez lui pendant un certain temps, prêté par Erard. Et finalement, après, Erard l'a récupéré, après sa mort. Et Louis Vierne a donné des cours à ses élèves sur cet instrument aussi. Donc vraiment, il y a
une belle filiation.
Ouais. Et je veux dire que j'ai appris énormément de choses en jouant sur cet instrument, des œuvres que j'avais jouées à l'orgue, que j'avais jouées depuis 25 ou 30 ans, et finalement que je redécouvrais avec un autre éclairage, en fait.
C'est un peu comme passer des cordes en métal au boyau, on redécouvre une sonorité.
Ah oui, vraiment.
Alors là, vous nous proposez d'écouter justement un extrait d'une œuvre d'Alcan sur ce piano pédalier. Thank you. C'est absolument étonnant ce son, Olivier Latry. Hein.
Oui, oui, je veux dire, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça et je suis étonné moi-même.
Charles Valentin, Alcan, un prélude en si bémol mineur. Et donc, c'est un enregistrement que vous avez fait sur cet instrument étonnant, le piano pédalier.
Qui est visible aussi au Musée de la Musique, à la Porte de Pantin.
Alors, on aura le plaisir, Olivier Latry, de vous recevoir ici à la Maison de la Radio pour deux concerts. Le premier, c'est le 10 mars avec l'Orchestre National de France.
Oui, et le Concerto de Poulenc.
Ouais, ce très beau Concerto de Poulenc, moi j'aime beaucoup. Et puis le 13 mars, vous serez en récital à 16h. Donc ça, c'est un peu un secret le programme, non?
Non, pas du tout. C'est de la musique française, 20e, 21e siècle.
Dernière question, Olivier, une question désagréable. Il vous plaît cet orgue de Radio France?
Heureusement, oui. On a tout fait pour. Donc,
c'est vrai.
Et on y travaille encore. C'est de mieux en mieux, de jour en jour. Donc, voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour Jérôme Sandelaars.
Bonjour Dominique Boutel.
Alors ce matin Jérôme, nous partons avec vous à la découverte de l'un des trésors relativement méconnus de notre maison ronde, le stock de la discothèque de Radio France. Une structure qui a été fondée en 1945, du temps de la radiodiffusion française, et qui compte aujourd'hui 47 personnes, dont 22 documentalistes.
En effet, je vous emmène ce matin à la lisière de Paris, entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers, où se trouve la plus grande partie du fond de la discothèque de Radio France, depuis environ une dizaine d'années, parce qu'avant elle était dans la maison.
Ouais.
Le lieu s'appelle Calberson. Il s'agit en fait d'un vaste entrepôt de 4000 mètres carrés qui recèle 450 000 vinyles, j'ai bien dit 450 000, 220 000 CD, mais aussi 363 cylindres phonographiques, des partitions, des livres et des revues. Il faut dire que 700 nouveaux disques arrivent chaque mois, tout genre confondu, avant d'être triés par ordre d'arrivée. De quoi donner le tournis.
Un peu, oui.
Alors on trouve des discours d'Angela Davis, un éclat de rire enregistré par Thomas Edison ou la collection de chants de prisonniers d'Alan Lomax, édité par le label Folkways, des ritournelles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 45 tours de la version française du titre Heroes de David Bowie, sorti en 77, qu'on a écouté récemment d'ailleurs, après son décès. On trouve presque tout dans cette immense caverne d'Ali Baba sonore, faite de béton brut et de rails métalliques, où il fait bon se perdre. Allez, c'est parti pour une visite guidée en compagnie d'Anne Voisin, documentaliste depuis une trentaine d'années au sein de la discothèque de Radio France et référente de France Musique.
Sur notre gauche, c'est le stock courant, ce qu'on appelle stock courant. Ce sont des disques qu'on va prêter aux usagers, qu'on va copier aussi, qu'on va consulter. Et puis parce que sur la droite, nous avons la même chose, mais en stock archive, ce sont des disques qui n'ont en principe jamais été utilisés.
Donc a priori, ils sont neufs.
Ils sont tout neufs en principe, ceux-ci. Voilà, ils n'ont jamais été utilisés, sauf pour la numérisation. Par exemple, l'album bleu des Beatles, je sais qu'on en a acheté entre 30 exemplaires parce qu'ils passaient tellement qu'ils étaient rayés très très vite, quoi. Puis c'est un usage intensif quand même à la radio, hein. C'est pas du tout un usage comme à la maison, hein. Donc,
et à l'époque, voilà. Il fallait pouvoir les passer à tous les producteurs.
Absolument, sur toutes les chaînes et à tous les producteurs. Donc il y a des disques qu'on a vraiment achetés en beaucoup d'exemplaires. Bon, maintenant, il n'y en a plus, hein. Le tri a été fait, un petit peu de ménage, un petit peu de désherbage, comme on dit en documentation. On en a quand même moins, mais néanmoins, là, je vois qu'il y en a un en moins, 6 exemplaires, celui-ci.
C'est quoi?
Un album de l'UNESCO, très intéressant, sur de la musique de Syrie. Ben, dites-moi, ça, c'est de l'actualité, hein. On va l'ouvrir. Il est très, très propre. L'appel à la prière, une cérémonie invoquant Allah. Et voilà, oui, magnifique, un pâté Marconi de la collection UNESCO.
Et qui date de
1973, la date de publication. On achète tout genre confondu, hein, aussi bien de la musique traditionnelle que de la musique de film, que de la musique classique. Enfin voilà, tout ce qui sort vraiment de l'ordinaire, qui peut servir à illustrer toutes les émissions possibles de toutes les chaînes de la maison. Donc ça, c'est des choses très intéressantes, voilà. Voilà. Les 78 tours, alors de tout format, hein, des 25 cm et des plus grands, très lourds et assez encombrants. On a même des 80 tours en fait, qui sont extrêmement grands. On voit les tâtonnements de l'industrie du micro-sillon, des disques à lecture excentrique. Donc vous mettez votre pointe à l'intérieur et elle vous éjecte vers l'extérieur, ce qui fait que vous avez quelques surprises quand vous n'êtes pas habitué à ça. autre, vous vous trouvez éjecté.
Deutsche Grammophon.
Oh oui, toutes marques confondues, beaucoup d'Odéon évidemment, hein, beaucoup de chansons françaises, beaucoup de... Et puis beaucoup de pépites en classique aussi, en musique classique. On a énormément de 78 tours qui n'ont jamais été réédités, des séries extrêmement limitées qui ont été faites pendant la guerre, par exemple, ou des œuvres qui, notamment de compositeurs du XXe siècle dont on n'entend plus parler à l'heure actuelle. Hein, et puis dans quelques années, on les redécouvrira. Ne serait-ce que Henri Barrault, qui lui a été un homme de radiodiffusion qui est très connu, mais on a beaucoup de compositeurs dont on n'entend plus parler. Hein.
Est-ce qu'il y a des exemples précis qui vous reviennent à l'esprit ?
Je crois que les œuvres qui ont été composées en 1937 pour l'exposition universelle de Paris, il y a quelques pièces absolument incroyables avec des orchestrations dingues, avec le début de Don Martenot. Il y a beaucoup d'expérimentations et puis de la musique extrêmement descriptive en fait pour le feu, l'eau, le folklore. Ce sont des œuvres vraiment vraiment atypiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est voir l'évolution de la musique et de l'évolution de l'interprétation en particulier. C'est là qu'on se rend compte qu'en un siècle, par exemple, la technique vocale a énormément changé. Je trouve ça toujours assez rigolo, quoi. Les 78 tours ont la particularité d'être en exemplaires assez nombreux, sachant que ce sont des supports assez fragiles. Il faut les manipuler avec beaucoup d'attention. Ça s'ébrèche, ça se fêle. Pareil, ils ont eu un usage professionnel, donc parfois ils sont marqués au crayon gras. Puis on a eu quelques techniciens un petit peu fantaisistes qui les passaient aux plies, par exemple, ou qui les ciraient, voilà. C'est vrai qu'un disque brillant, c'est quand même beaucoup plus joli. Et puis à l'arrivée, ça dépose une couche de gras, entre guillemets, dans le sillon. Et puis, c'est impossible de les numériser maintenant. Il faut nettoyer tout ça à l'eau distillée. Enfin, c'est toute une technique. On a deux techniciens qui s'occupent de ça chez nous. Reporter les 78 tours, les 33 tours. Et il y a plein de petits ménages à faire avant de nettoyer un disque. Et c'est toujours drôle. Hein, j'ai parfois des commentaires du genre... Tu n'as pas pu nous trouver un exemplaire propre. Alors, dans les 78 tours, par exemple, on a récupéré ce qu'on appelle des pirales. En fait, on enregistrait une œuvre sur pirale. On l'a commercialisé ou non, parce que c'était pas probant ou voilà. Et donc on a tous ces pirales tests de l'orchestre de la radiodiffusion, hein, voilà, dont les premiers enregistrements d'Henri Dutilleux sur Léo de Hurlevent, qui est une pièce qui n'a jamais été rééditée après. Et ce sont des pirales qui ont été un premier jet, voilà, et qui n'ont jamais été rééditées. Il y a à peu près 75 000, 78 tours, sachant que le stock ne cesse d'augmenter puisqu'on a régulièrement des dons d'auditeurs qui sont très très fiers de nous envoyer leurs 78 tours. Alors je suis un petit peu drastique dans mes choix, c'est vrai que je ne prends pas tout parce qu'on a vraiment un problème de stockage. Mais c'est vrai que parfois, sur un 78 tours, une série, il nous manque une face d'une symphonie ou d'un mouvement. Quand on retrouve ça dans un lot d'un don, je trouve ça... c'est Noël. Une partie du stock très intéressante aussi, ce sont les bruitages. C'est un stock qui est extrêmement utilisé pour illustrer. des reportages, des dramatiques sur France Culture en particulier. Radio France a été éditeur de bruitages et on se retrouve maintenant avec des bruitages complètement fous de Panhard, de Dauphine Place de l'Étoile, d'autobus à plateforme qui nous sont maintenant réclamés parce qu'ils ont ce petit côté rétro qu'on cherche. Ben dans les gags de demandes d'usagers, j'ai une fois une jeune personne qui m'a demandé un bruitage de forêt partant de brouillard. Donc j'ai eu un peu de mal à le trouver. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les disques sont écoutés et indexés. Chanson qui va parler d'amour. Peut-être pas qu'on va mettre amour, mais par exemple, elle va parler d'une relation par enfant, ben on va mettre sa relation par enfant. Une chanson qui va parler de la banlieue, une chanson qui va parler de Serge Gainsbourg, une chanson qui va... Tout ça, on va le noter pour pouvoir le retrouver plus tard quand un producteur aura besoin d'illustrer une émission sur...
Une thématique.
Une thématique, voilà, exactement. Donc ça, ça fait partie du travail de documentation, hein, et pas oublier qu'on sert l'antenne.
Où est-ce que vous voulez m'emmener maintenant ?
Oh, je ne sais pas. La 33 tours, la 33 tours. Là, peut-être des 33 tours ? Les rayonnages sont montés donc sur crémaillère. Et ce sont des grosses roues pour les faire avancer et ne pas rester coincées entre deux travées. Ah, un Elvis. Un Elvis avec une pochette transparente. Et un pitcher disc. Ah, c'est magnifique ça.
Il est très Elvis Presley est représenté sur le voilà. Vinyle.
La pochette est transparente et Elvis est dans le vinyle. C'est des choses à exposer.
Oui, parce que c'est aussi ça une des vocations de la discothèque.
En fonction de certaines thématiques, de certains festivals, on expose nos plus beaux échantillons de la discothèque. C'est vrai qu'on a fait ça au Francofolie de La Rochelle, à Bourges, même dans l'enceinte de la Maison de la Radio, nous avons fait une exposition sur le football, au moment des Coupes du Monde, Coupes d'Europe, tous les disques 33 tours et 45 tours qui parlaient de foot.
Vous travaillez sur quelle exposition, vous, en ce moment ?
Moi, je travaille sur une exposition qui va avoir lieu au Musée de l'Immigration, donc qui va parler notamment des Italiens qui ont fait carrière en France, vécu en France, comme Rossini, qui est venu s'installer en France, puisqu'il habitait Passy, au-dessus de la Maison de la Radio, et puis des gens comme Aldo Ciccolini, qui a fait toute sa carrière en France, Lino Ventura, ou des gens comme ça, voilà. Et donc, on a sorti des œuvres, des belles pochettes. Le premier enregistrement d'Aldo Ciccolini, la pochette est une pure merveille. Et puis, voilà. Donc, on participera à cette exposition au Musée de l'Immigration à partir de l'année prochaine, janvier 2017.
On peut l'écouter, cet extrait d'Aldo Ciccolini ?
Je vais vous le trouver. C'est un travail permanent de gérer un stock comme ça, de faire des inventaires quantitatifs, qualitatifs, parce qu'il y a souvent des usagers qui reviennent en nous disant « ce disque-là, il est mort, on ne peut plus rien en faire, il est cassé, ou il est bon ». Donc ça aussi, il faut le gérer.
Et donc la numérisation, ça permet de contourner ce type de problème,
absolument.
Hein, c'est ça ?
Oui, oui,
c'est
oui.
Maintenant, les fichiers sont numériques et plus physiques.
Oui. Alors, le dématérialiser, c'est bien, mais ça fait peur à beaucoup de producteurs. Hein. C'est pas encore tout à fait dans les mœurs de certains producteurs. Donc, on a tous nos fichiers qui sont dans ce qu'on appelle la discothèque numérique, qui est une base énorme. On est à presque 2 millions de fichiers à l'heure actuelle. Donc,
Et vous reprenez toutes les notes qui sont dans les livrets qui accompagnent les CD ?
Alors, oui, on scanne les pochettes, les livrets, les plaquettes. Et bien entendu, on ne touche pas au son du disque. Hein. C'est vraiment une copie linéaire. Il n'y a aucune manipulation du son du CD originel.
«
Est-ce qu'il y a une œuvre que vous auriez envie de nous faire particulièrement découvrir, Anne Voisin, avant de nous quitter?
Qu'est-ce que je pourrais vous faire découvrir? Un vieux 78 ans qui gratte. Un de mes chouchous, moi, un de mes interprètes favoris, c'est Carlos Gardel. J'ai toujours adoré le tango chanté. Alors là, en 78 tours, ça a été une découverte et un frisson parce que j'avais que des 33 tours ou des CD. Et là, la voir en vrai, parce que c'est 78 tours, c'était du vrai, quoi. Et il a une voix très, très chaude, une diction incroyable. Voilà, ben, on comprend pourquoi les femmes se pâmaient en sa présence. Un beau 78 tours, ça fait du bien.
On va se quitter à son écoute alors. Merci Anne Voisin.
De rien.
Tienes un viejo y pasas por gran señora que le saca todo el vento y me engañas como un gil. Tienes un arte pa' engrupir a los varones que hasta un chico los huemosos le sacaste buen botín. Y hasta has hecho de un casiono remañado un michigato londrao que te da lo que pedí. Con esa quencha, ¿por qué no haces un tratado? La moderna cachadora o la forma de engrupir. Cachadora, cuando te encanas a un coso, ni por broma se te empieza a torrenta. Cachadora, recorriste poco tiempo de botón a comisario. Que diotario, vampiresa, llegó tierra de Puente Alsina, ya no andas por las esquinas, te paseas en Boaturé. La otra noche caminando por corriente te encontraste con el Tano que al principio te empichó. Lo llamaste, pero el Tano ya canchero, por la viaba que le diste, se hizo humo entre el montón. Y a otro pipiolo que pagaba copetines y pa' comprarte botines y amuraba hasta el reloj. Al campanero te pegó un viraje en la esquina y te dijo que vendría, pero nunca más volvió. Cachadora, cuando te encanas un coso, ni por broma se te pianta, atorranta, cachadora. Recorriste en poco tiempo de botón a comisario, un quediotario, valpiresa, llegó fiel de Puente Alsina, ya no andas por las esquinas, te paseas en Boaturé.
J'aime bien le tango. Merci Jérôme.
Alors avant de nous quitter, ma chère Dominique, une petite information qui devrait ravir tous les collectionneurs de pépites sonores. Il y a une vente aux enchères de vinyle qui va être organisée le 19 juin prochain à la Maison de la Radio, parmi lesquelles il y aura évidemment des raretés. Mais rassurez-vous, il ne s'agit nullement de dilapider le patrimoine musical de Radio France, mais de vendre des doublons ou des triplons. Et nous aurons sans doute, j'espère, l'occasion d'en reparler d'ici le mois de juin avec Marc Marais, le directeur de la discothèque de Radio France.
En effet, Jérôme. Merci beaucoup pour cette petite promenade et à bientôt.
Je vous en prie, à bientôt.
La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Et non, Édouard Lalonde n'a pas composé que la symphonie espagnole. Je m'adresse aux violonistes au moins qui connaissent cette œuvre par cœur. Elle a été enregistrée des dizaines de fois, alors que l'on peine parfois à trouver des enregistrements du reste de l'œuvre de Lalo. Pourtant, ça vaut souvent le détour.
Un extrait de l'Allegro moderato du trio numéro 1 en ut mineur opus 7 d'Edouard Lalo par le trio Léonore.
Lalo a 27 ans lorsqu'il compose ce trio avec piano, c'est-à-dire que nous sommes en 1850. Lalo vit assez modestement, c'est un homme que l'on dit discret, sa musique est alors peu jouée. Et c'est très étonnant de constater que pendant toute la première partie de sa vie, il ne compose que des œuvres très intimes, de la musique de chambre et des mélodies. Et puis, 15 ans plus tard, on observe dans son catalogue que non seulement le rythme s'intensifie, il compose davantage, mais surtout, ce sont des œuvres beaucoup plus épaisses, longues, un opéra, Fiesque, en 1866, des œuvres pour orchestre, des concertos pour violon, pour violoncelle, un deuxième opéra, Le Roi X, son ballet Namuna, sa symphonie espagnole, son concerto russe et sa rhapsodie norvégienne.
Un vrai voyage.
Alors, vous allez me dire, mais que s'est-il passé ? L'amour, bien sûr. Il est séduit par l'une de ses élèves, la chanteuse Julie Bernier de Maligny. Il l'épouse et auprès d'elle, il change littéralement de vie. Il déménage de Puteaux au boulevard Malesherbes. Et là, dans son salon, tous les vendredis, il reçoit avec son épouse l'intelligentsia parisienne et aussi ce qu'il appelle les prix PRIS de Rome, RHUM.
L'orchestre symphonique de Bâle, dirigé par Giancarlo Andretta, interprétait l'allegro final de cette symphonie en sol mineur d'Edouard Lalo.
Voyez-vous, ce qui m'impressionne le plus chez Lalo, c'est cette haine du banal qui se traduit par une invention harmonique jamais au repos. C'est la leçon des quatuors de Beethoven qu'il a si souvent joué. C'est Debussy qui parle ici.
Eh oui, c'est bien vu. Le vendredi 11 mars à la Maison de la Radio, on donnera le dernier opéra de Lalo, La Jacquerie, qui a été créé l'été dernier au Festival de Radio France et Montpellier, en coproduction avec le Palazzetto Bruzzane de Venise.
Lalo est mort brutalement alors qu'il avait tout juste achevé le premier acte de cet opéra. L'orchestration des trois actes suivants fut confiée à un élève de César Franck, Arthur Cocard, qui d'ailleurs respecta merveilleusement le style de Lalo. Voici quelques minutes du premier acte.
Monsieur le Sénéchal, vous le savez, je suis veuve. Il n'est plus auprès de moi personne.
Ton fils s'en aller à Paris.
L'enfant rêvait de s'instruire et d'apprendre pour devenir les plus grands et majeurs. Si mon esprit
Oh, l'ennui d'une plainte d'un murmure ô malheur à vous chère.
On peut toujours s'entendre avec chaque bonhomme, quand on sait lui parler.
Nous écoutions un extrait de l'acte 1 de la scène 1 de L'Ajacri d'Édouard Lalot. Les interprètes en étaient Nora Goubiche, Charles Castronovo, Boris Pinkasevich, le chœur de Radio France, l'orchestre philharmonique de Radio France, tous dirigés par Patrick Davin.
Et s'ajoutent également à la distribution Véronique Jans, Christophoros Stamboglis, Patrick Boller et Enguerrand de Hisse.
Et je rappelle que le vendredi 11 mars prochain à 20h à la Maison de la Radio, cet opéra sera donné pour la deuxième fois seulement depuis sa composition en 1892. Merci Marie Fauché. Agenda. Lundi soir, vous êtes invité à venir assister à l'enregistrement de l'émission publique à l'improviste d'Anne Montaron. Elle recevra le compositeur Benjamin de la Fuente au violon et à l'électronique, puis en trio, Karl Ludwig Hübscht au tuba, Pierre-Yves Martel à la viole de gambe et Philippe Zoubek au piano. C'est à 19h au studio 106. Vous voulez donner votre avis sur l'interprétation, qu'à cela ne tienne. Venez assister jeudi 10 mars à l'enregistrement de la Tribune des critiques de disques, animée par Jérémy Rousseau. Jeudi prochain, il sera question de la 5e symphonie de Jean Sibelius. C'est au studio 109 de 19h à 20h30. Concert jazz samedi prochain à la Maison de la Radio, un concert en 2-7. À 17h30, retrouvez le pianiste Paul Lay en trio pour ses Alcazar Memories avec Isabelle Serling au chant et Simon Tailleux à la contrebasse. Puis en deuxième partie, le quartet du pianiste Bruno Angelino pour Instant Sharings avec Régis Hubi au violon, Claude Chamichian à la contrebasse, Edouard Perrault à la batterie. Jazz sur le vif, c'est au studio 105, samedi 12 mars.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Et bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour à tous.
Alors mon cher Jean-Yves, une rareté comme d'habitude.
Aujourd'hui, une expérience radiophonique aux frontières du réel ou presque, puisque nous allons voyager dans le temps une nouvelle fois et retrouver la voix de Reynaldo Hahn. Vous savez, Reynaldo Hahn qui est très lié au monde proustien et qui était aussi un grand musicien, qui nous présente tous les instruments de l'orchestre.
Et c'est parti pour un cours de musique en compagnie de Reynaldo Hahn, excusez du peu.
On appelle quatuor l'ensemble des instruments à cordes frottées. Ainsi que l'a dit un grand musicologue, les organes qui le composent sont l'âme de la musique instrumentale. Grâce à leur sonorité riche et variée, à leur mobilité, à leur souplesse, à leur force expressive, à leurs ressources infinies, ces instruments forment un corps remarquablement équilibré qui occupe dans l'orchestre une place prépondérante. Voici pour commencer le violon. Avant d'examiner ses particularités, je tiens à dire que dans la composition du quatuor, les violons se divisent en premier et second. Chacun de ces groupes assume une partie distincte, mais ils jouent souvent aussi les mêmes notes, soit à l'unisson, soit à des octaves différentes. L'échelle du violon est d'une très grande étendue. Dans le registre grave, son timbre est mâle et puissant.
Thank you.
écoutez-le maintenant chanter dans le médium avec des inflexions caressantes. Ou avec une ardeur inquiète et persuasive. Dans l'aigu, il peut être à son gré calme, diaphane, éthéré. Spirituel, furtif et malicieux. Ou bien encore, incisif et violent. Mais dans quelque registre qu'il se meuve, il peut toujours être, quand il le veut, agile, rapide et fiévreux. Le violon peut faire entendre 2, 3 et 4 notes simultanément et acquérir par là un surcroît de vigueur. Mais ces accords, il peut également les exécuter sous forme d'arpèges et en tirer des effets transparents. Parmi les effets les plus curieux du violon et des autres instruments du quatuor, je signale les sons harmoniques qu'on obtient en effleurant les cordes d'une certaine manière. Ces sons flûtés et mystérieux atteignent dans l'aigu les limites extrêmes de l'échelle musicale. Ils ont un caractère féerique, comme dit Berlioz, et produisent un effet lumineux à la fois étrange et ravissant. Passons à l'alto. C'est un violon plus grand, à la voix plus grave, à l'accent pénétrant. Il excelle surtout dans l'expression des sentiments amoureux ou élégiaques et dans les évocations poétiques. Brillant que le violon, il sait pourtant se montrer agile, rapide et agité. Le violoncelle est, pourrait-on dire, le baryton du quatuor, mais un baryton d'une étendue infiniment plus grande que celle du baryton humain. Il peut également fournir des basses solides ou chanter pour son propre compte de la façon la plus séduisante, et cela dans tous les registres. Le voici avec sa voix profonde et vibrante dans le grave et le médium. Et le voici maintenant qui soupire une cantilène dans sa tessiture élevée. Capable des effusions les plus délicates et les plus tendres. Et enfin, dans un élan de fougue et de passion. La contrebasse est l'instrument le plus grave du quatuor. sa fonction essentielle est d'assurer la base de l'édifice orchestral et d'étayer le violoncelle. Mais il peut, à l'occasion, se mouvoir avec prestesse et produit alors comme une impression d'ébranlement sismique. Le pizzicato s'obtient en pinçant les cordes avec le doigt. Le trémolo est la répétition rapide d'un même son. Il y en a de différentes espèces, dont voici un exemple caractéristique où il accompagne un solo. Terminons par des exemples d'accords de genres différents. Le premier, avec ses notes espacées, est écrit en vue d'un effet de douceur. Les derniers, au contraire, sont denses et ramassés, comme ils doivent l'être pour contribuer à la robustesse des grands tutti. Les flûtes sont les instruments les plus aigus et les plus légers de l'orchestre. La grande flûte en est le plus diaphane, le plus aérien. Ainsi qu'il arrive pour tous les instruments, son caractère change d'après ses différents registres. Vous l'entendez ici dans le médium, où elle prend un caractère vaporeux. Dans le haut, elle est agile et brillante. La petite flûte, leste et gaie, est quelquefois un peu stridente. Le hautbois, au timbre clair et légèrement nasillard, évoque des images agrestes. Mais il sait aussi être sentimental. Le cor anglais est en hautbois plus lourd et d'un caractère profondément mélancolique. Ces sons graves ont une vibration pathétique et même douloureuse. La clarinette, grâce à sa très grande étendue et à son timbre riche et varié, est un des instruments les plus utiles de l'orchestre. La voici dans un passage qui demande de la souplesse et de la rapidité. La voici maintenant dans un fragment expressif et calme. Le saxophone, dont le timbre prenant a été si souvent galvaudé dans la musique de danse, mais s'y occupe à sa place dans la douceur et la tendresse. Le basson est mâle et chantant. excellent parfois dans le comique, notamment quand il s'agit d'évoquer des personnages grotesques. Le corps emprunte des physionomies sonores très différentes. Et d'une poésie pénétrante quand il semble résonner la nuit dans les profondeurs d'un sous-bois. Il est entraînant et joyeux quand il entonne fièrement une fanfare de chasse. Le rôle de la trompette est surtout héroïque et allègre. Mais on peut en tirer dans la douceur des effets puissamment expressifs. Les apanages du trombone sont l'éclat et la majesté. Dès qu'il intervient, ce bel instrument donne une impression de puissance et de grandeur. Les timbales se composent d'une peau tendue sur un bassin hémisphérique. Elles peuvent faire entendre des notes précises et elles ont des emplois divers. En voici deux des plus fréquents. D'abord le trémolo, qui peut s'enfler à volonté ou décroître jusqu'au pianissimo le plus discret. Voici ensuite un rythme bien marqué sur deux notes différentes. Le xylophone est composé de lames de bois ou d'acier qu'on frappe avec des maillets. Saint-Saëns en a fait un usage célèbre et curieux dans la danse macabre où il lui fait imiter des ossements humains qui s'entrechoquent. Les jeux de timbre, le glockenspiel et le vibraphone rendent des sons argentins. Le celesta est limpide, aquatique et cristallin. En voici un emploi charmant qui fait penser à des fusées d'eau dans un aquarium. Terminons cette énumération par la harpe. Cet instrument merveilleux est l'un des plus anciens du monde. Dans sa forme actuelle, il offre des ressources extrêmement variées. Mais que ce soit par des accords, par des effets lumineux de glissando,
ou par des arpèges. On s'en sert le plus souvent pour éveiller des visions séraphiques et des idées supraterrestres.
Cette leçon de musique façon Reynaldo Hahn tenait sur quatre faces de disques de la maison Ultraphone, éditées en 1935. Merci Jean-Yves Patte, à la semaine prochaine. Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, c'est le texte que nous a envoyé Philippe Fiété que j'ai le plaisir de vous lire. Vous vous souvenez, 1976, la canicule de cet été. J'avais 18 ans, mes premières vacances loin de ma Lorraine. Les parents d'une amie m'avaient invité à passer une dizaine de jours au Guilvinec dans leur maison de vacances. J'étais déjà passionnée de musique, de Zappa à Coltrane, de Al Stewart à Gordon Lightfoot, de Ferré à Colette Mani, mais rien en classique. Un après-midi pluvieux dans cette maison bretonne, j'ai fouiné dans la discothèque pour passer le temps. Au hasard, j'ai pris un Félix Mendelssohn, le concerto pour violon et orchestre en mi mineur, opus 64. Assis dans un fauteuil, j'ai senti une grande émotion à l'écoute des solides violons d'Itzhak Perlman. Je dirais même quelques larmes. Depuis cette découverte, la musique dite classique a envahi mes journées. Bach, Mahler, Brahms m'accompagnent et s'entrelacent avec Thelonious Monk ou Archie Shepp. Merci à la famille Gédéon, Sophie et à mes parents. Depuis, je collectionne les différentes versions de ce concerto. Et j'en ai une douzaine. Pour illustrer le souvenir musical de Philippe Feyeté, nous avons entendu un extrait de l'album de Frank Zappa, Hot Raps, puis un extrait du concerto pour violon de Félix Mendelssohn, dans la version qu'il évoque, celle d'Itzhak Perlman, avec l'orchestre du Concertgebouw que dirigeait Bernard Haitink. Merci à tous ceux qui nous confient leurs récits. Nous attendons avec impatience vos souvenirs que je me fais un plaisir de partager à ce micro. Question de cœur avec Sophie Jeannin. Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour Dominique.
Sophie, vous nous avez éclairé sur certaines des techniques employées pour chauffer cette voix, l'assouplir. Finalement, on a parlé de beaucoup de choses, sauf de l'endroit où ça se passe, c'est la gorge, parce que c'est un petit peu là que se trouve le foyer de la voix, là où se trouvent ses cordes vocales.
Oui, on parle beaucoup de la gorge, en effet, et puis c'est vrai que c'est l'endroit, je crois, où le chanteur, le matin où il ou elle se réveille, on avale, on vérifie, on regarde que ça fait pas mal, qu'il n'y a rien qui est gonflé, etc. Après, il y a toujours des élèves qui viennent me voir, ou des chanteurs amateurs qui me demandent, est-ce que vous avez un traitement à recommander? Est-ce qu'il faut prendre du miel? Est-ce qu'il faut prendre des boissons chaudes? Mais, vous savez, en fait, c'est pas le même tuyau. On mange et on respire par deux tuyaux différents. Donc, en effet, une boisson chaude, ça peut nous réconforter. Mais ce que je peux recommander pour le repos vocal, c'est le repos et c'est le fait de dormir.
Et de ne pas trop parler, de ne pas forcer, j'imagine.
De ne pas forcer sa voix, c'est-à-dire que déjà trouver une tessiture parlée qui est idéale, qui ne fatigue pas la voix. Et bien évidemment, un jour de concert ou une veille de concert, j'interdis assez formellement à mes élèves de crier devant un match de foot ou de faire un karaoké avec les copains ou même chuchoter. Parce que vous savez que quand on fait des sons non voisés de cette façon-là, c'est pas nécessairement très sain non plus. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours utiliser la voix dans une façon où on essaye d'éliminer tout l'air qui peut passer. Parce que quand vous avez l'air qui passe sur la voix, ça veut dire que vos cordes vocales ne ferment pas entièrement. Et si on a ce petit espace pour l'accolement, cela peut créer au fur et à mesure des petites inflammations, mais même des nodules.
Ah oui. Il faut se reposer, il faut respecter comme un muscle en fait.
Oui, après il y a quand même un bienfait aussi en prenant une petite pastille qui, voilà, avec un petit anesthésique dedans quand on a vraiment très mal à la gorge et qu'il faut quand même chanter, ça peut quand même nous aider. Mais pour les cordes vocales, cela ne fait pas de différence. Oui, moi je pense de ne pas être désinvolte avec sa voix, d'être raisonnable sans être excessif, parce que vous savez, ça peut aussi devenir un facteur psychologique très important aussi.
D'inquiétude, d'angoisse.
Oui, oui. Et souvent, quand on est très fatigué ou angoissé, on peut aussi avoir mal à la gorge, qu'on soit chanteur ou non d'ailleurs, mais c'est un endroit dans notre corps où pas mal de stress, de fatigue peut aussi aller. Donc je pense que d'être raisonnable et d'essayer d'avoir une hygiène de vie saine.
Bon allez, tous les chanteurs se recouchent ce matin.
Voilà.
Merci Sophie. Pour illustrer ce nouveau volet de Question de cœur, nous écoutions un extrait du concert que la maîtrise de Radio France donnait le 9 juin 2015, ici même, au Studio 104. Elle chantait un extrait des Animal Crackers d'Eric Whitaker. Enfin, il y a des places à gagner ce matin pour le concert que nous évoquions dans la chronique de Marie Fauché, La Jacquerie d'Édouard Lalot, une œuvre rare, un opéra en version de concert à découvrir à l'auditorium de la Maison de la Radio, vendredi 11 mars à 20h. La distribution vaut le déplacement. Patrick Davin emmène le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France dans cette fresque médiévale où s'illustreront notamment Véronique Gens, Nora Goubiche et Florian Sempé. Pour gagner une place pour ce concert, il vous suffit de nous écrire au plus vite en allant à la page de Fabrication Maison sur le site de France Musique, francemusique.fr. Voilà, c'est la fin de notre émission, réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Xavier Atto et d'Adelino Mello. Et ce matin, une pensée pour Pierre Potier qui a réalisé le générique de l'émission. N'hésitez pas à podcaster ou à réécouter l'émission que vous trouvez sur le site de France Musique, francemusique.fr. Et on se retrouve très vite.